Seigneur éternel, notre Père, notre Dieu, comme nous venons de le prier, nous ne croyons pas en quelque chose de vague, nous ne suivons pas une religion, mais nous suivons le Dieu vivant. Nous voulons manger ce pain descendu du ciel. Nous voulons manger celui qui a fait rouler cette pierre en ce matin de Pâques, oh, et dont la puissance a été manifestée, où les soldats sont tombés à terre. Ô Dieu, devant ta puissance, la mort n'a pu te retenir. La mort n'a pu te retenir. Ô mort, où est ta victoire? Ô Seigneur de gloire, tu es le glorieux, le victorieux, le merveilleux, le magnifique, le tout-puissant, le tout-vivant. Ô Seigneur, nous te glorifions et ce matin, oh, à l'instant d'entendre ta parole, nous voulons manger, Seigneur, cette parole. Nous voulons manger tout ce que tu es, Seigneur. Oh Père, afin qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh Seigneur, donne-nous encore ta vie ce matin. Tes paroles sont esprit et sont vie. La chair ne sert de rien. L'intelligence ne sert de rien. Alors viens par ton Esprit Saint nous engendrer. Nous révéler, Seigneur, encore ce que tu veux nous dire ce matin. Nous enseigner toi-même, ô Père, par le Saint-Esprit, par cette loi que tu as gravée dans nos cœurs, cette Torah, cette instruction, cette parole de vie que tu veux encore graver dans nos cœurs ce matin. À toi la gloire, notre Dieu, notre Père. Toute gloire et tout honneur te revient par le Fils Jésus que tu as envoyé, ce pain que nous mangeons ensemble ce matin. Amen. Voilà, bien-aimés, on va ensemble donc s'entretenir de la parole de Dieu et de quelques versets ce matin dans le chapitre 35 du livre de l'Exode. Vous pouvez prendre Exode 35 avec moi et nous allons lire quelques versets au long de ce chapitre. On va commencer par Exode 35, versets 4 et 5. Et j'avais à cœur ce matin de vous parler de l'amour de Dieu, de notre amour pour Dieu, et que cet amour, eh ben, il a des conséquences, et cet amour, ce salut de Dieu dans nos vies, il se manifeste par des œuvres. Et nous allons commencer par le livre de l'Exode, donc au chapitre 35, versets 4 et 5. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes, etc. » La liste s'allonge, mais je saute pour que nous lisions à la suite le verset 20 et 21. « Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. » Et ensuite nous terminons au verset 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Amen. C'est effectivement cet appel que lance Moïse pour la construction du tabernacle. Et il fait effectivement appel au peuple pour que le peuple, dont, et c'est pour ça que je voulais vous lire plusieurs versets, dont le cœur est bien disposé à offrir quelque chose sur leur bien pour la construction du tabernacle, pour l'œuvre de Dieu. Et ces versets m'ont marqué par le fait que Dieu insiste particulièrement par rapport au fait qu'on doit avoir le cœur bien disposé. Et que c'est des offrandes volontaires. C'est-à-dire qu'on a décidé de le faire. On n'est pas contraint, on n'est pas forcé, on n'est pas sous un joug, on n'est pas... Voilà, on le fait de tout notre cœur. On le fait parce qu'on aime Dieu. On le fait justement parce qu'on a envie de le servir, on a envie de travailler avec Dieu. Et je crois que c'est une base, et la sanctification, tout toute notre marche avec Dieu doit venir de l'amour qu'on a pour Dieu. C'est pas avec Dieu il faut que ou tu dois. C'est ce que Dieu veut, c'est nous faire connaître son amour afin qu'il y ait cette réponse d'amour dans notre cœur qui va bondir vers lui. Mais cet amour, il doit pas que bondir en parole, il doit bondir en acte et en vérité. C'est ce que dit Jean, n'aimez pas seulement en parole et avec la langue, mais aimez en acte et en vérité, hein, en pratique. Et c'est ce que nous enseigne aussi ce chapitre de l'Exode, de dire, ben, ce peuple aimait Dieu, ce peuple voulait participer à la construction du tabernacle, mais il fallait pour ça qu'ils apportent des offrandes, il fallait qu'ils apportent quelque chose avec lequel on pourrait bâtir et on pourrait construire. Et c'est clair que la première étape, c'est de connaître l'amour de Dieu, de connaître le véritable, afin qu'ensuite on ait cette réponse d'amour. Et cette réponse d'amour, elle est faite de notre foi, de mettre cette foi au Fils de Dieu. Cette foi nous sauve, mais comme nous allons le lire dans Jacques, cette foi sans les œuvres, elle est morte. Elle ne sert à rien. Et ce n'est pas que c'est les œuvres qui nous sauvent, la foi seule nous sauve. Mais si on a vraiment la foi, alors cette foi, elle se manifeste. Si on a rencontré le vrai Dieu, hein, comme on vient de le chanter, il s'est manifesté, venez et voyez, eh ben, ça veut dire que, comme au début de mon parcours à la suite du Seigneur, ben, quelqu'un m'a parlé du Seigneur, et ce que je me suis dit, si Dieu existe, je peux le rencontrer. C'est pas plus compliqué que ça. Dieu, c'est concret. Dieu, c'est pas justement, comme je le priais, une espèce de croyance tellement spirituelle qu'il faut être vraiment très très spirituel pour avoir et arriver à vivre avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est un Dieu vrai, c'est un Dieu concret, c'est un Dieu vivant et qui vient nous toucher, qui vient nous visiter, qui vient nous saisir et qui du coup attend de nous des actes, qui attend de nous du vécu, qui attend de nous une marche concrète avec lui. Amen. Et j'aimerais pour cela prendre un autre exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 qui nous parle de deux hommes qui effectivement, Matthieu 21, un qui a dit « j'aime Dieu » et qui n'a rien fait et un qui a dit « ben j'aime peut-être pas encore assez Dieu » mais qui s'est repenti, qui a dit « j'aime Dieu » et qui a fait. Donc Matthieu 21, c'est la parabole des deux fils. Matthieu 21, verset 28 et suivant. « Que vous en semble ?» dit Jésus. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Il répondit « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Et cette parabole, Jésus, comme on le voit dans son contexte, l'utilise dans un contexte particulier, effectivement. Et j'en fais une interprétation un petit peu différente pour nous ce matin. Et donc, effectivement, où il interpelle les pharisiens, il interpelle les autorités religieuses de l'époque pour leur dire justement, eh ben, vous dites justement que vous voulez aller, que vous voulez faire l'œuvre de Dieu, mais pourtant vous ne croyez pas en moi. Et en même temps, eh ben, il y a eu des simples, il y a eu des pécheurs qui ont été, oui, humbles, et qui du coup ont cru, n'ont pas cherché à ce que ça leur aille, à ce qu'il faille que ça aille comme ils avaient envie, etc., ou que ça corresponde à ce qu'ils pensaient. Ils ont eu cette simplicité, cette humilité de se saisir du salut. Et c'est pourquoi, nous de même, il faut qu'on puisse, à l'image de ces deux fils et de ces deux images différentes, voir que oui, si Dieu nous interpelle, parce que les deux étaient les fils du Père, les deux étaient des enfants du Père, mais il y en a un, effectivement, qui fait la volonté de Dieu et un qui ne la fait pas. Pourtant, je pense que les deux avaient certainement de l'amour pour Dieu. Mais il y en a un qui a compris qu'il fallait que ça s'accompagne d'actes. Il y en a un qui a eu justement l'humilité, qui s'est abaissé devant Dieu et qui a dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et peut-être que ce n'est pas quelque chose, des fois, qu'on peut discerner tout de suite. Mais ce que Dieu attend en nous, c'est cette attitude de repentance, c'est cette attitude d'humilité qui va faire qu'on va rentrer dans l'œuvre de Dieu. Mais que justement, on ne va pas se gargariser, oui, d'avoir connu l'amour de Dieu, de connaître le véritable, et en même temps de comme rester stérile. On a besoin, à l'image d'Exode 35, eh ben, d'avoir ce cœur volontaire, ce cœur bien disposé, non effectivement pas comme ce second fils, mais comme ce premier fils qui peut-être... justement, a été interpellé, a été, ça a été pas facile pour lui au début de se dire, d'avoir envie d'aller dans la vigne, mais il y a un moment donné où il s'est repenti, il a dit, mais je vais aller, je vais faire la volonté de Dieu. Je veux aimer Dieu, non plus en parole, mais en acte et en vérité. Et je veux du coup faire partie de ces publicains, de ces prostituées qui ont été les premiers dans le royaume des cieux. Et c'est là où Jésus lui dit justement que les derniers seront les premiers seront les derniers. Et qu'on puisse être de ces humbles, de ces petits, qui justement font la volonté de Dieu et aiment Dieu vraiment en acte et en vérité, à l'image effectivement de ce premier fils et non du second qui dit « Je veux bien Seigneur, oui je ferai », qui disent « Oui, oui », mais qui ne font pas. Et que même si justement eh ben, on a des luttes en nous, on a des combats, eh ben, confessons-les. Amenons-les devant Dieu, amenons-les devant des frères, devant des sœurs. Demandons la prière, ouvrons-nous justement pour finir par aller dans la vigne. Mais sinon, on va dire oui, oui, mais on ne va pas faire et on va rester seul. Et Dieu veut justement qu'on soit vrai. Hein, j'en parlais avec un frère dernièrement. Dieu attend de nous qu'on soit vrai. Aujourd'hui, on joue un rôle, on a un rôle de façade parfois dans l'Église et dans le christianisme. Mais ce que Dieu attend, c'est qu'on soit des gens vrais. Et que si, voilà, il y a des choses qui ne sont pas évidentes, qu'on ne comprend pas, qui luttent, mais amenons ça devant le Seigneur. Remettons-lui, osons lui donner ça, pour que justement il le transforme. Parce que des fois, on se plaint qu'il y a des luttes en nous, mais on ne les donne pas à Dieu, on les garde. Et puis on les supporte fort bien, vous voyez, ces combats. On les supporte fort bien, ces luttes en nous. Mais tant que justement on ne les amène pas devant Dieu, tant qu'on ne dit pas, eh ben, je ne veux pas aller, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas, comment je vais y arriver? Tant qu'on ne dit pas ça à Dieu, eh ben, Dieu ne va pas pouvoir nous aider. Dieu ne va pas pouvoir nous donner la repentance, la qualification par le Saint-Esprit et par sa grâce d'aller, de faire sa volonté. Mais si on va dire, oui, oui, je vais y arriver, ça va y aller, ou on refuse d'entendre, ou on repousse l'appel de Dieu parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable, eh ben, on ne fait pas la volonté de Dieu et on perd du temps et on souffre inutilement. Et Dieu ne peut pas se servir de nous autant qu'il le voudrait. Tout comme dans Exode 35, il a pu se servir de tout ce peuple parce qu'il y a eu vraiment un élan. On pourrait dire que, effectivement, c'était un temps de réveil particulier que vivait le peuple à ce moment-là parce qu'il y avait un élan pour construire la demeure. Là, on ne se rend pas bien compte non plus des fois quand on lit la parole de Dieu, mais que ce tabernacle était là pour recevoir justement la présence vivante de Dieu, la nuée. Bon, combien vous vous imaginez que, bien sûr, le peuple devait être entraîné pour justement donner et apporter des offrandes volontaires? Mais nous sommes l'Église, nous sommes ces temples du Saint-Esprit qui ensemble s'assemblent pour s'édifier les uns les autres et former, comme dit Paul, cet édifice dans l'Esprit. Et justement, on a besoin nous aussi d'amener notre offrande, d'amener le fait qu'on fait la volonté de Dieu ensemble, afin que Dieu puisse venir, afin que Dieu puisse nous donner cette nuée, nous donner sa présence vivante. Mais si nous sommes de ce Fils qui dit « oui, je veux », mais qui en même temps est encore à moitié là, à moitié pas là, eh bien, la présence de Dieu, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire autant que le Seigneur voudrait dans nos vies. Mais osons, soyons vrais. Dieu, il veut qu'on soit vrai. On peut s'imaginer lorsqu'on a un petit enfant, lorsqu'on a notre fils ou notre fille qui va peut-être pas bien, ou qui a peut-être des luttes, ou qui a peut-être des combats, ou tout ce qu'on veut, c'est qu'on aimerait qu'il s'ouvre, on aimerait qu'il nous dise, on aimerait qu'il nous partage, on aimerait être au diapason de son cœur. On n'aimerait pas qu'il reste comme ça renfermé en disant oui, oui, et en fait en pensant le contraire, vous voyez. Et aujourd'hui, il y a malheureusement des chrétiens qui disent oui, oui au Seigneur, mais qui pensent le contraire, ou alors qui veulent repousser ça. Et peut-être des fois, c'est légitime parce qu'on ne se sent pas capable, parce qu'on se sent faible, etc. Mais amenons cette faiblesse à Dieu. Amenons tout ça. Amenons même, s'il faut de l'incrédulité, s'il faut des choses, mais que Dieu puisse nous donner justement cette repentance, nous transformer pour qu'on soit vraiment dans ce royaume. Et alors là, on verra la grâce de Dieu. Là, on verra l'amour du Seigneur et l'agir de Dieu dans chacune de nos vies. C'est pourquoi, à l'image de ces Hébreux qui ont construit le tabernacle dans le désert, Il faut que nous puissions avoir des cœurs bien disposés, des cœurs qui sont volontaires et des cœurs qui aiment Dieu en pratique par nos œuvres. Et j'aimerais prendre avec vous dans l'épître de Jean, 1 Jean 4, au verset 20, encore un verset qui, si vous voulez, c'est vrai que c'est un sujet sensible, ce sujet des œuvres, ce sujet justement de la foi, etc. Et je crois que bien sûr qu'on est sauvé par la foi au Fils de Dieu, aucune œuvre ne peut remplacer le sacrifice du Fils de Dieu, aucune œuvre. Mais en même temps, quand on a connu l'amour, c'est obligatoire d'aimer à notre tour, c'est obligatoire justement de manifester, comme dit Jésus, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et si justement on a un cœur rempli de prière et d'amour pour Dieu, mais que tout notre extérieur manifeste le contraire, eh bien, c'est pas en accord avec la parole de Dieu. Si on veut être en accord avec la parole de Dieu, il faut que justement notre arbre et nos fruits ressemblent à l'arbre. Mais que si eh ben, les fruits ne ressemblent pas à l'arbre, eh ben, c'est que justement Dieu veut nous donner le fait d'être vrai, le fait de comme ce fils qui a dit « j'irai pas », mais qui s'est repenti, eh ben, qui nous donne cette repentance pour finalement aller dans cette vigne, aller dans cette volonté de Dieu pour l'aimer en acte et en vérité. Voilà ce que nous dit 1 Jean 4 au verset 20. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. » Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et si vous voulez, rien qu'avec ce verset, on a là toute la substance, toute la nourriture nécessaire pour comprendre qu'on peut dire beaucoup de choses sur Dieu. On peut dire beaucoup de choses spirituelles. On peut, j'ai envie de dire, tout laisser dans le domaine spirituel en disant « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu fait ci, Dieu fait ça, etc. » Et ça, personne ne peut le juger parce que c'est seulement Dieu qui vous l'a dit, c'est seulement dans votre cœur que ça s'est passé. Mais la parole de Dieu, là, nous dit « Non, il y a un autre moyen de voir si ce qu'il y a dans ton cœur, c'est vrai, c'est réel, c'est concret et ça vaut quelque chose pour le Seigneur d'abord. » Ben, c'est de voir que si tu n'as pas cet amour pour ton frère, si tu n'as pas ce pardon, si tu n'as pas cette obéissance, si tu n'as pas cette soumission, si tu n'as pas ce partage, si tu n'as pas cette transparence, si tu n'as pas cette vérité envers ton frère ou envers ta sœur, tu n'as donc pas ça et tu ne peux pas l'avoir envers Dieu. Ce n'est pas possible. Et comme on le voit dans la croix, souvent on aime bien cette image, il y a une dimension verticale, une dimension horizontale. Si vous avez que la verticale, vous n'avez pas la croix. Mais il vous faut l'horizontale. Il vous faut l'horizontale. Et l'horizontale, on dit que justement, c'est la communion avec le prochain. C'est notre relation avec l'autre. La verticale, c'est la relation avec Dieu. L'horizontale, c'est la relation avec le prochain, avec les autres. Et notre communion avec Dieu, elle se mesure à la communion qu'on a avec les frères et avec les sœurs, à l'amour qu'on a avec le prochain. Et Dieu veut nous amener plus loin, Dieu veut amener son peuple plus loin, dans une marche justement volontaire et bien disposée, afin d'ensemble bâtir le tabernacle, afin d'ensemble d'être l'église. Sinon, on est une église de gens verticaux, vous voyez, il y a plein de gens verticaux qui ont des merveilleuses relations avec Dieu, mais qui n'en ont aucune avec son voisin ou sa voisine. Qui n'ont aucune, pas forcément que de la joie, des fois de se frotter aussi, des fois de se reprendre, des fois de dire « mon frère, ma sœur, là, je ne sais pas, est-ce que tu penses que voilà, ça vient du Seigneur ?» ou « voilà, je veux simplement te dire que ben, ça m'a blessé » ou « ça m'a fait bizarre », etc. Ou « voilà, on va apprendre à se pardonner, on va apprendre justement à s'aimer en vérité. » Parce que j'ai envie de dire, la verticalité, c'est facile. J'ai envie de dire, bien sûr que c'est la première des choses que Dieu fait, c'est de nous rencontrer, c'est de nous sauver par la foi en son Fils. Mais après, Dieu veut rajouter une deuxième dimension capitale, dont on va finir par lire dans Jacques, où c'est marqué noir sur blanc. Alors si certains ne sont pas d'accord avec Jacques et qu'ils veulent l'enlever, ben enlevez-le, mais en même temps, je vais vous montrer encore que le maître, celui par lequel on pourrait seulement garder les paroles, j'ai envie de dire, si à la limite on devait nous enlever la Bible et qu'on nous disait « qu'est-ce que tu choisis de garder ?» Eh bien, je pense qu'il nous faudrait garder un évangile, bien évidemment. Et il nous faudrait garder la parole de Jésus, hein, même si bien sûr tout est la parole de Dieu, l'entière et pleine révélation de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit de la Genèse à l'Apocalypse, de la première à la dernière lettre. Mais si on devait garder qu'un livre, eh ben moi en tout cas je garderais un évangile, parce que là il y a les paroles de mon maître, il y a les paroles de celui que je vais voir revenir sur les nuées, et je veux être en accord avec ce qu'il me dit. Et voilà ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, nous y revenons, Matthieu 6. C'est dans ses instructions après avoir annoncé ses béatitudes. Jésus enseigne ses disciples à prier. Et nous connaissons bien évidemment ces choses, mais j'aimerais les relire avec vous. Matthieu 6, verset 9. Il enseigne le Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et surtout ce verset 12. Pardonne-nous nos offenses. Amen. On s'arrêterait bien là, hein? La gloire de Dieu, la verticalité, Dieu nous pardonne nos offenses. Ah, mais la phrase ne s'arrête malheureusement pas là. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah tiens, ça c'était quelque chose des fois qu'on oublie un petit peu dans l'Église. Ne nous induis pas en tentation, nous poursuivons, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et comme si nous avions besoin d'être encore instruits un petit peu plus, Jésus poursuit en disant « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Il nous explique même une partie, je pense, du coup très importante du Notre Père qu'on aurait pu tout à coup oublier. Donc si vous voyez, on finira par lire Jacques, mais même si on veut enlever Jacques, bon ben là c'est Jésus, c'est le Maître qui le dit, qui dit que ton amour, l'amour que tu as reçu du Seigneur, ce salut que tu as vu et que tu as ressenti dans ton cœur, cette repentance que tu as eue, elle doit se manifester envers ceux qui t'entourent. Elle doit être dans des actes, elle doit être justement en vérité. Elle n'est pas que proclamation, elle n'est pas que croyance. Ô combien on aime justement à dire qu'on ne suit pas une religion, que Jésus est une personne vivante, qui parle, qui est là et qui guérit, qui fait encore des miracles aujourd'hui. Et ô combien il faut qu'on puisse être d'autant plus, encouragé et volontaire à dire nous ne suivons pas une religion, mais nous suivons justement une personne vivante qui fait que je pardonne, qui fait que je suis en communion avec tous ceux qui m'entourent. Et s'il y a quelque chose qui vient briser cette communion, qu'est-ce que nous dit Jésus ? On ne va pas le lire, mais il le dit lui-même à nouveau. Tu laisses là ton offrande et tu vas te réconcilier avec ton frère. Tu ne viens pas comme ça devant moi. Tu ne peux pas venir devant Dieu seulement verticalement. Ce n'est pas possible. Jésus nous l'enseigne clairement. Jésus nous l'enseigne noir sur blanc. Et c'est pourquoi l'Église n'est pas faite d'individualité, n'est pas faite justement de gens qui sont, j'ai envie de dire, voilà, dans la nature, mais qu'on a besoin de la communion avec les uns, avec les autres. On a besoin de cette dimension, on appelle ça la communion fraternelle, et elle est merveilleusement fraternelle, même si, comme je le disais il y a quelques instants, des fois, elle est faite de frottements, des fois, elle est faite de difficultés, elle est faite de souffrances, mais c'est là que l'amour jaillit. L'amour, il a jailli d'où, bien-aimé ? Il a jailli d'où, l'amour ? Il a jailli de la croix. Il n'a pas jailli quand Jésus il a multiplié les pains ou quand il a guéri des gens, même si bien sûr c'était les œuvres qui manifestaient que Jésus était le Messie. Et c'était l'amour de Dieu qui le faisait. Et c'est l'amour de Dieu qui nous guérit encore aujourd'hui. Mais le véritable amour qui restera et qui demeurera dans l'éternité entière, comme l'enseigne Paul, en disant les langues cesseront, les prophéties seront abolies. Mais qu'est-ce qui restera ? L'amour. Et cet amour, il vient de la croix. Cet amour, il vient dans le fait de se frotter. Il vient dans le fait de se frictionner, de souffrir. Mais pour ça, il faut qu'on ose affronter les choses. Mais si on continue de fuir, si on continue de refuser de voir ça et de vivre ça, eh ben, on fait du surplace avec le Seigneur. Et même, on va pouvoir peut-être même régresser. Et on ne portera pas le fruit que le Seigneur nous veut avoir. Et qu'en même temps, on peut dire et défendre becs et ongles, et il faut le faire, c'est un fondement de la réforme, La grâce seule, la foi seule, l'écriture seule. Amen. Nos pères réformateurs l'ont reproclamé et ça a été extraordinaire et nous sommes justement des enfants de cette réforme. Mais en même temps, cette foi qui n'a pas, comme Jésus l'enseigne, ce pardon envers nos frères, nos sœurs et ceux qui nous entourent est une foi qui est vaine, comme nous allons le lire dans Jacques à l'instant. Donc nous pouvons prendre Jacques 2, verset 14 et suivant. Là aussi, des versets on ne peut plus clairs. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» On a besoin, effectivement, que cet amour de Dieu il puisse se manifester. Nous puissions le laisser sortir, le laisser jaillir. Mais si nous avons rencontré Dieu, bien-aimés, je tiens à vous encourager. Nous avons la capacité, non pas en nous-mêmes, mais Christ en nous, de pardonner, d'aimer, d'avoir justement cette communion avec ceux qui nous entourent. C'est là justement qu'on juge si on est une personne nouvelle ou si on est toujours une personne ancienne. Moi je le sais que quand j'étais une personne ancienne ou que quand il peut tout à coup avoir le vieil homme qui des fois peut revenir à certains moments, c'est vrai qu'on sera délivré de ce vieil homme totalement dans le ciel quand on va ressusciter d'entre les morts. Mais en même temps, Dieu nous exhorte à mettre en œuvre notre salut et à pouvoir marcher en homme nouveau tous les jours de notre vie. Et j'étais dans ce vieil homme avant de connaître Christ, j'étais quelqu'un d'égoïste et j'étais, oui, incapable d'aimer ceux qui m'entouraient, incapable même de pardonner à ceux qui m'avaient blessé, à ceux qui m'avaient trahi, etc. Et que même à quelqu'un, et souvent là aussi, par exemple, c'est un exemple tout simple et des fois qui peut nous faire sourire, mais sur la route, il faudrait qu'on fasse un sondage parmi l'Église de Dieu de voir comment les chrétiens se comportent, par exemple, sur la route. Vous voyez, parce que c'est des fois, peut-être particulièrement plus chez les hommes, mais quand il y en a qui, vous voyez, qui conduisent pas très bien, qui nous font quelque chose, qui nous piquent une place au dernier moment, comment on va réagir, effectivement? Eh bien, on voit, là, effectivement, s'il y a l'homme nouveau ou l'homme ancien. Mais l'homme nouveau, ben avant, voilà, il insultait ou je ne sais pas ce qu'il faisait, ou dans d'autres et différentes situations. Ça peut être plus intérieur, ça peut plus s'exprimer. Mais il y avait effectivement une incapacité à pouvoir être différent. Mais la nouvelle naissance nous donne d'être des gens différents, d'être des gens changés, d'être des gens qui peuvent pardonner. Alors, c'est pourquoi, justement, la lutte et le combat en nous, il est dans le fait de vivre en homme nouveau, ou finalement, des fois subtilement, d'avoir la foi, de croire en Dieu, de le prier, de le louer, de le glorifier, et en même temps d'avoir encore quelque chose en nous qu'on n'a pas quitté. Une partie de nous-mêmes qu'on n'a pas encore quittée. On a peut-être quitté certaines choses, abandonné, renoncé à certaines choses. Puis il y a peut-être encore une racine de nous-mêmes auquel on n'a pas encore renoncé. On ne s'est pas encore quitté totalement soi-même. Et c'est vrai que c'est difficile de se quitter soi-même. On peut des fois quitter beaucoup de choses extérieures ou, oui, des grands péchés qu'on ne commet plus, comme quand on ne connaissait pas Christ. Mais en même temps, plus on avance avec le Seigneur, plus il vient mettre la lumière sur des petits détails, des petites choses, des petites réactions, des petites attitudes, des petites paroles, etc. Et là, Dieu nous attend afin qu'on puisse être justement cet amour manifesté, qu'on puisse avoir ces œuvres que Dieu veut. Et qu'on soit encouragé, parce que c'est possible. Si Dieu nous a demandé de le vivre et de pouvoir pardonner à ceux qui nous offensent, de pouvoir aimer nos ennemis, les bénir, c'est que c'est possible. Mais c'est sûr que c'est pas possible humainement. Et du coup, c'est pourquoi ça nous oblige à vivre, comme on l'a partagé aussi dans ce culte ce matin, de la manne fraîche. Que chaque jour, ce soit Christ qui vive en moi et plus moi. C'est ce qu'il dit Paul, c'est ça la vie chrétienne, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si donc je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Donc il dit oui, je dois vivre par la foi afin que Christ vive en moi. C'est de vivre par la foi, c'est de manger le pain qui vient du ciel chaque jour pour que Christ vive en moi, afin que du coup j'ai les œuvres qui manifestent que j'ai la foi. Et c'est toute l'exhortation de Jacques. Dire à quoi ça te sert de dire que tu as la foi si tu n'as pas les œuvres? Non, du coup, il y a quelque chose que tu as besoin de vivre. Il y a quelque chose auquel tu as besoin de te repentir, à l'image de ces deux jeunes fils. Tu as besoin de trouver repentance, d'aller auprès de ton Dieu, de reconnaître qu'il y a encore certaines choses qui tiennent en toi, que tu ne veux pas lâcher, afin que tu puisses aller à la vigne. Parce que sinon, tu restes comme l'autre fils, tu dis oui, mais tu n'y vas pas. Et Dieu veut nous amener à ça, à l'humilité, à reconnaître, à lâcher certaines choses peut-être encore, et puis pouvoir rentrer dans la vigne du Seigneur. rentrer dans les œuvres que Dieu a préparées et qui, du coup, croyez-moi, ça changerait le visage de peut-être beaucoup d'assemblées, de beaucoup d'églises, que de vivre cet amour et cette dimension horizontale. Parce que c'est là, et beaucoup, on aime tous le psaume 133, psaume qui parle justement de la communion des frères et des sœurs ensemble, etc., cette huile qui coule. Mais cette communion, on la trouve à la croix, bien-aimé. Cette communion, on la trouve dans la souffrance, on la trouve dans le pardon, on la trouve dans le fait d'aller se voir, d'aller se parler, de se dire les choses, et puis de, voilà, de pleurer ensemble, de vivre ça. Et c'est ce que Jésus a vécu, c'est ce qu'il a manifesté, et c'est ce qu'il veut être pour nous aujourd'hui, pour son Église. Je poursuis la lecture de Jacques au verset 15. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi » par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Combien c'est une parole forte et que j'aime énormément. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Là aussi, noir sur blanc, nous avons le fait de voir que, oui, nous pouvons avoir rencontré Dieu. Mais si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, Dieu ne nous pardonne pas. Ce n'est pas moi qui le dis, bien-aimé, c'est Jésus, c'est le Maître. Alors puissions-nous entendre ces paroles et être libérés de nous-mêmes encore, ou encore de tout ce qui nous retient, pour vraiment être ces flambeaux, ces lumières dont le monde a besoin, qui ne font pas que des œuvres de charité, parce que ce n'est pas forcément ce à quoi exhorte Jacques, il prend un exemple assez gros pour qu'on comprenne justement, de voir que s'il y a des gens qui ont rien puis tu leur dis bah vas-y, bon repas, bon appétit, alors que c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi manger ou qui a froid, de lui dire bah chauffe-toi bien, c'est autant un non-sens que de croire en Dieu avec que cette dimension verticale sans la dimension horizontale, sans ce pardon, sans cet amour, sans ces œuvres, sans cette lumière, sans tout cela, et c'est ce qu'a dit aussi Jean. Comment est-ce qu'on peut prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et pas aimer notre frère qu'on voit ? Vous voyez ? Et moi, j'ai croisé certaines personnes qui m'ont dit « Mais oui, moi, Dieu, mais s'il me demande quelque chose, mais je lui obéis tout de suite, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu te rends compte, Dieu me parlait, et puis, bien sûr que je ne vais pas pouvoir désobéir, ce n'est pas possible. » Et j'essayais de rendre sensible ces personnes à dire « Mais si tu dis ça, mais que tu n'es pas capable d'obéir à ton frère ou ta sœur qui te demande quelque chose, mais tu ne peux pas prétendre que si Dieu te parlerait, tu lui obéirais. C'est peut-être ce que tu te dis, mais crois-moi que ce n'est pas vrai. » Et on va dire, oui. Mais même si, justement, et c'est tout aussi ce que dit Jésus avec cette parabole du mauvais riche et de Lazare, de dire, mais même s'il y a un mort qui ressuscite, ils ne croiront pas. Donc ça veut dire, ils n'obéiront pas. Ils obéiront pas à la foi, et c'est ce que dit Paul aussi dans l'Épître aux Romains, afin d'amener justement les païens à l'obéissance de la foi. Et Dieu, on s'imagine encore que, oui, si c'est lui qui nous parle, alors oui, je vais obéir, parce qu'on s'imagine peut-être le Sinaï, ou je ne sais quoi, mais en même temps, même si le Sinaï venait aujourd'hui où vous étiez devant, vous auriez peur et vous fuiriez. Parce que si on n'est pas capable justement de pardonner ou d'obéir ou de vivre cette dimension concrète, terrestre, des commandements de Dieu, devant le Sinaï, on ne résisterait pas. Par contre, si on le vit, eh ben on ne fuirait pas devant le Sinaï. Donc c'est pourquoi de dire que oui, si c'est Dieu qui me le dit, je le ferai, mais si c'est mon frère ou ma sœur, je ne le fais pas, ça n'a aucun sens pour la parole de Dieu. Ça n'a aucun sens bibliquement, ça n'a aucune valeur devant le Seigneur. Ce que nous demande le Seigneur dans la seule prière qu'il a enseignée à ses disciples, c'est de concrètement vivre cela. Et à la limite, tu n'as même pas besoin de rien dire, mais tu manifesteras par ce que tu es, par ce que tu vis, que tu as la foi. Souvent, justement, on a aussi des témoignages de gens qui disent « Mais à toi, tu es chrétien. » Et on n'avait pas forcément parlé. Alors c'est vrai que des fois, c'est parce qu'on a quand même un peu plus le visage rayonnant, mais en même temps, Il faut aspirer à ce que ce soit de plus en plus le cas, je pense. De plus en plus, effectivement, c'est un petit exemple, mais de dire, ben voilà, que notre vie, notre vécu manifeste justement une rencontre, manifeste quelque chose à laquelle les gens vont pouvoir aspirer, à laquelle, quelque chose à laquelle les gens vont avoir faim et vont avoir soif de ce qu'on a. Mais ils vont pas forcément avoir faim et soif que de la joie, bien aimé. Ils vont avoir faim et soif que, comme le disait David Wilkerson, ce grand homme de Dieu, lorsqu'il était dans son ministère dans le Bronx avec Nicky Cruz, tout le monde connaît cette histoire de la croix et du poignard, ça a été un livre et ensuite un film, et où justement ben, Nicky Cruz, qui était chef de gang, a commencé à frapper, et puis, j'ai pas d'autres termes, mais vraiment très violemment le pasteur, parce qu'il faisait une réunion d'évangélisation, et il a commencé à le frapper, à le frapper, à le frapper, à le frapper. Et puis bon, ce Nicky Cruz, il avait déjà tué des gens, donc il n'était pas à un prêt, vous voyez, et commençait à le frapper, ce David Wilkerson. Et tout à coup, Nicky Cruz a été stoppé par un de ses collègues là, de gang, en disant « mais tu vas le tuer, arrête !» et ensuite, et ben, voilà, il s'est arrêté, et David Wilkerson... Parce que bon, voilà, ça a un peu duré quelques temps. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais finalement, ce qui s'est fait, c'est que David Wilkerson a pu se relever, ou même pas relever, je pense, mais il a parlé à Nicky Cruz et lui a dit « Mais tu pourrais même me découper chacun de mes membres en petits morceaux. Chacun de mes membres te dira « Jésus t'aime ». Et c'est une parole qui a hanté Nicky Cruz et qui a participé au fait que cet homme se convertisse et qu'effectivement il y ait une magnifique et merveilleuse histoire qui se passe du côté effectivement du Bronx à New York. Et c'est ça, notre vie, elle doit manifester ça. Elle doit manifester que tu as beau me faire ce que tu veux, j'ai beau endurer quoi que ce soit, il y a toujours cette réponse dans mon cœur. Jésus t'aime. L'amour de Dieu manifesté pour tous les hommes. Et c'est vrai que c'est pas évident, bien aimé. Ce que je vous prêche, je me le prêche bien sûr aussi à moi-même. Ce n'est pas évident du tout, je le sais. Mais c'est pourquoi il faut qu'on laisse agir la mort en nous, la croix en nous, afin que Jésus continue de grandir et de se fortifier et de vivre en nous. Afin que cette dimension verticale, nous puissions la vivre. Et si nous vivons cette dimension horizontale, pardon, et si nous vivons ces deux dimensions, alors il y aura la croix qui sera plantée, c'est une image bien sûr, hein, mais on aura cette croix qui sera plantée au milieu de nos assemblées, au milieu de nos réunions, au milieu de notre vie, et pas seulement quand on prie, mais quand on marche, quand on travaille, quand on est en famille, dans nos foyers, il y aura la bénédiction de Dieu. Il y aura ce psaume 133 qui s'accomplira véritablement et qui n'est pas juste une croyance ou quelque chose qui nous fait chaud au cœur, une chaleur, ce sera vraiment du vécu. Et croyez-moi que si c'est du vécu, relisez le psaume 133, mais c'est extrêmement puissant ce qui est partagé dans ce psaume 133. C'est effectivement l'huile qui coulait, l'huile qui oignait le souverain sacrificateur, image de Jésus-Christ qui viendrait. C'est vraiment justement l'image de Jésus, l'image de l'huile, de la présence de Dieu. Vous avez la rosée aussi, la rosée dans la parole de Dieu, c'est la résurrection. Dieu envoie sa vie pour l'éternité au milieu de nous. Il envoie la vie du ciel là où il y a des gens qui ont la croix plantée au milieu d'eux. Dans leur cœur d'abord et ensuite quand on se rassemble et dans ce qu'on vit. Alors puissions-nous être exhortés ce matin, bien-aimés, et j'ai pris quelques exemples pour voir que ce n'était pas seulement l'histoire de Jacques et de ce qu'il a écrit, mais c'est toute la parole de Dieu qui nous enseigne cela. C'est effectivement toute l'histoire d'Israël. Écoute Israël et mets en pratique, marche, fais ses commandements. Alors voilà, on peut tout de suite taxer très vite, oh mais c'est légaliste, etc. Faire. Et c'est vrai qu'on a été mauvaisement influencé par des siècles effectivement de catholicisme où ça a été beaucoup accentué par là. Il fallait faire des choses, mais il n'y avait plus du tout cette dimension verticale avec Dieu. Il n'y avait plus cette rencontre vivante, ce salut par la foi au seul sacrifice de Jésus, son sang qui a coulé et qui nous sauve aujourd'hui. Mais si ce sang qui a coulé, comme le dit la parole, il crie plus fort que celui d'Abel, alors qu'il crie plus fort que celui d'Abel dans chacune de nos vies, qui crie plus fort sur les divisions entre nous, qui crie plus fort que les guerres et les petites batailles en essayant de tirer la couverture à soi, qui crie plus fort justement que toute ambition personnelle, qui crie plus fort que tout orgueil, qui crie plus fort que toutes ces choses, que ce sang crie plus fort. Et ce sang, on sait qu'il crie plus fort, pas parce qu'on le dit, mais parce qu'on le vit, parce qu'on le manifeste par nos vies, par ce que notre marche avec Dieu et par le fait que la croix de Dieu est plantée dans sa dimension verticale et horizontale dans chacune de nos vies et dans son Église. C'est la volonté de Dieu. Alors, bien-aimés, soyons bénis dans ces choses et continuons d'avancer pour être prêts lorsque le Fils de l'homme viendra et que nous sachions comment il faut prier et que nous sachions par le Notre Père comment il faut vivre, parce que c'est ce que Jésus voulait. C'était pas seulement les enseigner à prier, c'était les enseigner à vivre. Et c'est pourquoi Jésus vivait 24 heures sur 24 avec ses disciples. Et ça, c'est tout à fait une dimension tout à fait courante dans le judaïsme et en Israël, c'est que les disciples, ils vivent avec le rabbin. Et du coup, il y a quelque chose et c'est ce vécu, c'est cette marche. Et c'est pas seulement on vient à l'enseignement puis on repart. C'est du vécu, la marche avec Dieu. Alors qu'on puisse être de ce peuple de ceux qui marchent jusqu'à ce que le Seigneur revienne et qu'on puisse être un peuple qui manifeste sa foi par les œuvres. Amen. Père éternel, roi de gloire, je veux te remercier, te rendre grâce, te louer, te glorifier encore pour ces paroles. Et je te prie qu'elles soient esprit et vie dans chacun de nos cœurs, ô Dieu. C'est des choses si importantes et je te prie que tu ce ne soit pas quelque chose dont on va encore se gargariser, mais que ça va pouvoir porter du fruit, avoir cette dimension concrète dans chacune de nos vies. Père, nous serons jugés sur nos actes, nous serons jugés sur nos œuvres. Nous ne serons pas jugés sur ce qu'il y aura eu dans notre cœur ou pas dans notre cœur. Ô Dieu vivant, alors puissions-nous porter du fruit à ta gloire, ressembler à Jésus. Comme il le disait, mais si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins avec les œuvres, croyez au moins par les œuvres. Que ben Seigneur, on puisse avoir, tout comme notre Maître, ces deux dimensions, la foi et les œuvres, ô Dieu vivant, ce vécu de Christ dans chacune de nos vies. À toi la gloire en cette journée. Bénis ton peuple dans ces choses. Te rendons grâce. Prépare nos cœurs dans cette continuité à prendre ce repas du Seigneur, qui est là aussi un repas concret. C'est du pain concret qu'on va briser. C'est du vin concret qu'on va boire. Et c'est des symboles concrets que tu as laissés. Même si, bien sûr, ils ont une signification spirituelle. Mais en même temps, on a besoin aussi de voir. On a besoin aussi de toucher pour faire mémoire. Merci de ce repas du Seigneur que tu as laissé à ton Église, que tu as laissé à ton peuple, pour que chaque fois qu'il en boive et qu'il en mange, qu'il se souvienne de toi, qu'il annonce ta mort jusqu'à ce que tu viennes, qu'il annonce cette source de l'amour qui a jailli de la croix et qui se manifeste et qui se concrétise dans la vie de ton Église, par les œuvres de ton Église. Béni sois-tu, Seigneur, et béni chacun de nos cœurs. Alléluia.